franceinter.fr.
Et si effectivement, au lieu de connaître plusieurs épisodes successifs de monogamie, nous décidions de vivre simultanément plusieurs histoires d'amour? On appellerait cela, par exemple, le polyamour, un terme qui fait florès aujourd'hui. Mais peut-on dire pour autant polyamour un jour, polyamour toujours? Nous attendons vos témoignages d'amoureux du polyamour ou pas, au 01 45 24 7000, ou bien sur le site internet de France Inter, franceinter.fr. Je suis d'accord avec l'UMP. Je ne vois pas pourquoi l'on ne parle que des primaires à gauche, alors qu'il y a aussi des primaires à droite. Par exemple, quelqu'un de très très primaire, le maire de Nogent-sur-Marne, Jacques Martin, désolé pour Michel Drucker, le maire de Nogent s'appelle Jacques Martin. Ce maire UMP vient donc de prendre un arrêté interdisant la fouille des poubelles dans sa ville. Une mesure non discriminatoire, puisque toute personne, qu'elle soit au RMI ou à l'ISF, sera condamnée d'une amende de 38 euros si elle est surprise à fouiller dans les poubelles. Je crois qu'il s'agit là d'une vraie bonne idée, encore meilleure que l'interdiction des cantines aux enfants de chômeurs. Ces vraies bonnes idées montrent que quand on veut, on peut faire pire. Imaginez un peu, un pauvre est surpris en train de faire les poubelles, paf, on lui colle 38 euros d'amende. Lui, il peut pas payer, normal, il est pauvre. Du coup, pour s'acquitter de cette amende, il est obligé d'aller faire les poubelles, mais à côté, bien sûr, de Nogent-sur-Marne. Malin, non ? Il faut saluer l'initiative prometteuse de Jacques Martin, les pauvres polluent depuis trop longtemps pour que l'on tergiverse encore. Expérimentons ! Par exemple, au XVIIIe siècle, Jonathan Swift apportait sa propre solution à la question pauvre. Redécouvrons-la. Il proposait tout bonnement de manger les bébés des pauvres. Dévorer un enfant de gueux, expliquait Swift, conviendra parfaitement aux propriétaires terriens qui, ayant déjà sucé la moelle des pères, semblent les mieux qualifiés pour manger la chair des enfants. Mais Swift proposait cela pour rigoler et Jacques Martin, lui, n'a pas du tout l'air de rire. Sinon, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une émission 100% sexe. Il ne sera question que de la chose, mais rassurez-vous, le tout dans un langage choisi. Car dans la seconde partie de l'émission, Maya Mazorette, véritable CNRS de l'érotisme à elle toute seule, abordera scientifiquement la question qu'elle s'est posée ce matin parce qu'elle était pressée. Le sexe lent, est-ce mieux que le quick sex ?
Loulou,
ça te dirait de faire l'amour à trois ?
Quoi ?
Ça te dirait de faire l'amour à trois ?
À trois ? Bah, ouais.
Ouais ?
Ouais.
1, 2, 3 !
Puis il sera question du Kindle, la nouvelle liseuse lancée cette semaine par Amazon. Quel rapport entre le livre numérique et l'érotisme ? Eh bien c'est, je crois, la manière la plus actuelle de relire les libertins du 18e. Méditez par exemple ce trait de Laclos, en amour, rien ne se finit que de très près.
Presbyte,
oui.
Compétent,
oui.
Il y a tapissé,
oui.
Sarabande, perpète. Consensus, John Baez,
en effet.
Paniqué,
oui.
S'expatrié, Nobel Peace,
encore.
Enrichi,
oui.
De Gaulle.
Merci beaucoup.
Et enfin, Hervé Pochon parlera de ses deux amours, la Canterbro, la Cronenbourg. Non, ses deux amours, la Bretagne et le Japon. Deux amours, Pochon est comme mes invités ce matin, il pratique le polyamour.
J'ai horreur d'être au milieu. Vous ne voulez pas vous y mettre ?
Laissez-moi tranquille. Si je vous gêne, je peux toujours aller dans la pièce à côté.
Arrêtez de déconner. Ne vous rendez pas compte que vous êtes le plus heureux des hommes ? Vous êtes dans un pieu avec deux nanas qui vous aiment.
Je veux bien passer au milieu. Laissez-moi dormir.
Service public. Guillaume Erner.
Nombre de nos contemporains ont le béguin pour le polyamour. J'ai même un militant de la cause dans ce studio, Guilin Homo. Bonjour Guilin.
Bonjour.
Vous animez le site amour.pl, vous avez voté Hollande aux primaires socialistes. Ça n'a rien à voir avec le thème du jour, mais j'ai lu ça dans le portrait que le journal Libération vous a consacré, faisant de vous l'un des héros du polyamour. Vous pensez qu'Aubry, elle est contre le polyamour ?
Non, j'en sais rien, je ne pense pas qu'elle soit contre pour les autres.
Je ne sais pas si elle vit le polyamour, je ne crois pas. Mais...
Bon, écoutez, je ne sais pas si la campagne sera le moment de lui demander cela. En tout cas, en face de vous, il y a Sophie Cadalen. Vous êtes psychanalyste. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Et vous avez notamment publié « Inventer son couple » aux éditions Erol. Et enfin, Maya Mazorette, notre spécialiste sexualité qui connaît l'érotisme comme Haroun Taziev connaissait les volcans. Salut Maya.
Bonjour Guillaume.
Alors, Guilin, qu'est-ce que le polyamour? Qu'est-ce que c'est que ce mot à la mode dont on nous rebat les oreilles en ce moment?
Bon, en fait, c'est assez simple. C'est le fait de pouvoir vivre plusieurs relations amoureuses de façon simultanée avec le consentement de ses partenaires. C'est-à-dire il y a deux choses. C'est on peut les vivre en même temps et les gens sont consentants. Voilà.
Donc, on va essayer de décomposer cela. Ça veut dire que ça n'est pas de l'adultère.
Non, puisque les gens sont consentants.
Et ça n'est pas non plus du libertinage.
Ça n'est pas du libertinage. Ça peut être du libertinage, mais ce n'est pas toujours du libertinage. C'est-à-dire que le libertinage, souvent, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est plutôt on a le droit, en dehors du couple, d'avoir du sexe. Par contre, il ne faut pas avoir de sentiments. Donc dans ce cas-là, on n'est pas dans une relation d'amour pluriel.
Ça veut dire que dans le polyamour, il y a nécessairement amour, nécessairement des sentiments?
Oui, c'est ça.
Donc, par exemple, vous qui êtes un militant de la cause, je le rappelle, vous interdisez d'avoir des relations charnelles avec des femmes que vous n'aimez pas.
Pas nécessairement, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois, polyamoureux et à la fois
libertin et adultère.
Ah non, adultère, c'est pas possible, puisque si à partir du moment où on est adultère, on n'est plus dans le polyamour, puisqu'il n'y a pas le consentement.
Sophie Cadalen, vous êtes psychanalyste. Est-ce important dans le domaine amoureux de nommer les choses?
C'est toujours important, et c'est pas moi en tant que psychanalyste qui le contredirai, c'est toujours important de nommer les choses, et peut-être particulièrement la chose. Mais là, déjà, ce qu'on entend, c'est la difficulté à tout enfermer dans un seul mot qui contiendrait tous les possibles. Et justement, dans la relation amoureuse, et dans le désir, et dans la relation sexuelle qui s'en mêle, les choses sont très compliquées, très diverses, et il y a beaucoup de possibles qu'à mon sens, un seul mot ne peut contenir, et qui forcément réduit tout ce que l'on peut vivre.
Si je demande à une psychanalyste si le polyamour peut rendre heureux, elle me répondra évidemment que chaque personne doit trouver sa solution au bonheur.
Oui, tout à fait. Le bonheur, déjà moi j'aime bien décomposer le mot bonheur, c'est une histoire de bonheur. Bonheur, c'est pas un état permanent, c'est pas un état que l'on atteint et que l'on maintient. Non, on goûte des heures de bonheur. Maintenant, voilà, quel est le bonheur de chacun et quelles sont ses heures à lui? Polyamour peut-être pour certains, et puis ça va se compliquer, puis ça va se matiner d'infidélité ou de relations sexuelles sans passion. Enfin voilà, tout est possible et un seul mot ne contiendra pas tous ces possibles.
Le polyamour, Maya Mazorette, c'est votre bonheur à vous?
Non, pas vraiment, mais j'ai justement en fait un problème avec le mot polyamour. Parce qu'on a tendance, nous, à penser à l'amour comme à la passion amoureuse. Et là, dans ce que vous décrivez, Guilin, il y a des choses vraiment très différentes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la passion amoureuse, mais il y a aussi des choses qui s'apparentent du coup à juste des relations charnelles. Mmh. Donc c'est beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que quand on parle de polyamour, on a l'impression qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes à la fois. Ce dont, moi, personnellement, je doute énormément.
Alors moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que dans l'amour fusionnel, on ne peut pas être amoureux de plusieurs personnes à la fois. Donc, quand c'est l'amour fusionnel, je pense que... Enfin, moi, je ne connais personne qui vive un amour fusionnel avec deux personnes à la fois. Maintenant, l'amour, il peut aussi ne pas être fusionnel. Et pour autant, on peut quand même l'appeler amour. On peut l'appeler autrement si on veut, mais on peut quand même... Enfin, la plupart des gens l'appellent quand même amour.
Alors là, je suis curieuse. Pourquoi renoncer à l'amour fusionnel, qui est quand même la chose la plus extraordinaire? Les scientifiques disent que c'est comme...
Sophie Cadalen n'a pas l'air d'être heureuse.
C'est comme être drogué.
À l'écoute de ce commentaire.
Non, l'amour fusionnel, je dirais que c'est la grande aventure, justement, de chacun dans le domaine amoureux. C'est quand on ne peut pas maintenir une relation sur le mode fusionnel. Au contraire, établir une relation, c'est être sujet en face d'un autre sujet. Établir des liens. Dans la fusion, on ne fait plus qu'un. Pas très constructif.
En tout cas, on est allé retrouver l'homme qui a forgé le premier le terme de polyamour. Et figurez-vous que cet homme, c'est Jacques Attali. Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
C'est vous qui, le premier, avez utilisé le terme de polyamour dans un livre intitulé « Amour » publié aux éditions Fayard. Comment l'idée vous en est-elle venue, Jacques Attali?
L'idée m'en est venue parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait regarder l'évolution des mœurs et qu'elle était le plus difficile à prévoir. Qui, à la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle aurait prévu le mariage homosexuel et l'ensemble des évolutions qui ont été à la fin du 20e siècle. Donc je me suis dit, si le 21e siècle connaît autant de changements technologiques, culturels, politiques, il va sûrement connaître aussi des mutations en termes de mœurs, aujourd'hui très difficiles à admettre. Et une des grandes tendances en marche à l'échelle de l'humanité me semble, elle, celle de l'apologie de la liberté individuelle. Je ne dis pas que je suis en faveur de cette évolution illimitée, mais je constate. Or, qui dit liberté individuelle dit non pas seulement le choix de pouvoir dire où je peux prendre ça ou cela, mais aussi la possibilité de faire et le choix de cela et cela. Donc de ne pas s'interdire aucun choix. Et donc, tout naturellement, je pense que cette tendance allait arriver, d'autant plus qu'on voit aujourd'hui les amours successifs être maintenant évidemment totalement admis, ce qui n'était pas le cas il y a encore un siècle, et avec le divorce. Et ensuite, on voit les amours simultanés exister évidemment, mais dans la confidentialité ou le secret. Je pense que donc il y a des changements en marche, parce qu'en plus, comme nous sommes dans des sociétés qui veulent la transparence, inévitablement, la simultanéité de la transparence et de la liberté pousse au polyamour.
Juste une dernière question, Jacques Attali. Est-ce que finalement, ça n'est pas une vieille utopie socialiste qui rejoint les utopies de Charles Fourier, des premiers socialistes qui pensaient que finalement, l'amour, c'était simple comme un verre d'eau ?
Je ne crois pas que ça soit. Ce n'est pas, parce que c'est multiple que c'est forcément moins fort. On aime plusieurs enfants. Et de la même façon. Plusieurs personnes peuvent se dire, si j'aime plusieurs enfants, pourquoi est-ce qu'il me serait interdit d'aimer plusieurs personnes ? Donc je ne crois pas que la multiplicité soit signe d'insincérité ou de légèreté.
Merci beaucoup, Jacques Attali.
Est-ce que quelqu'un ici accepterait de me gratter le dos ?
Gratte-toi le ciel de grattera.
Quoi ?
Gratte-toi le ciel de...
Tiens ! Avant de vous connaître, tous les deux, je ne riais jamais. Je faisais des têtes comme ça. Mais c'est fini, plus jamais ça. Maintenant, c'est comme ça.
La mer n'existe pas. Parfois, nous la rêvons. Mais elle n'existe pas, ce n'est qu'une intuition. La mer n'existe pas, parfois nous la croyons. Mais elle n'existe pas, ce n'est qu'une illusion. N'existe pas, parfois nous la rêvons, mais ça n'existe pas, ce n'est qu'une intuition. Elle n'existe pas, parfois elle nous attire. Cette certitude qu'elle m'entend, elle respire. La mer n'existe pas. La mer n'existe pas.
Artmengo est orphelin puisque pour lui, la mère n'existe pas. Et nous, nous parlons de polyamour, un terme forgé par Jacques Attali dans son livre Amour, publié aux éditions Fayard. Dans ce studio, il y a Guilin Aumont, qui est un militant de la cause qui publie régulièrement ses commentaires sur le site amour.pl. Dorothée Barba, notre reporter qui vient nous retrouver, Maya Mazorette et la psychanalyste Sophie Cadalen. Guilin, comment fait-on pratiquement pour vivre le polyamour? Est-ce que par exemple vous ne rencontrez que des femmes qui sont elles aussi acquises à cette cause?
Oui, alors au quotidien en fait, les amoureuses avec qui je vais avoir des relations sont des gens soit qui sont intéressés par le polyamour, soit des gens qui vivent déjà des amours pluriels.
Est-ce que vous faites des convertibles? Non, vous n'êtes pas prosélyte.
Non, mais en fait, les gens souvent s'intéressent. Et bon, il y en a beaucoup qui disent, pour moi, ça irait pas parce que je suis trop jalouse ou parce que c'est trop compliqué. Ce que je comprends bien, parce que c'est pas évident à vivre. Moi, je suis jaloux, par exemple. Moi, ça me fait toujours quelque chose au bide quand j'ai une amoureuse. Quand je suis dans une relation intense et que elle n'est pas là la nuit parce que je sais qu'elle est avec quelqu'un d'autre.
Mais alors pourquoi vous faites du mal à arrêter ?
Mais parce que il y a des avantages, c'est-à-dire il y a ce côté négatif. C'est pas le seul d'ailleurs, il y a pas que la jalousie qui pose problème au quotidien.
Qu'est-ce qui pose problème ?
Dans l'autre sens, moi j'ai par exemple si je rencontre quelqu'un qui me plaît beaucoup, je vais avoir de la culpabilité un peu à me dire ouais mais peut-être que mon amoureuse actuelle ça va être difficile à vivre pour elle. Donc c'est un peu la culpabilité, on fait sourire quelqu'un qu'on aime, enfin c'est pas forcément évident.
Dorothée Barba, justement, vous êtes allée en reportage voir ce polyamour sur le plan pratique. Vous êtes allée rencontrer trois personnes qui le vivent au quotidien.
Oui, deux garçons, une fille, ils ont la trentaine. Elle s'appelle Meta, il s'appelle Aurélien et Thomas. Alors pour vous les présenter un petit peu, elles travaillent à France Culture juste à côté. Eux deux sont dans l'informatique, ils sont trois donc, ou plutôt quatre, car Meta a accouché il y a quelques mois d'une petite fille, Aurore. Alors à ma grande déception, Aurore n'a pas voulu faire du bruit dans le micro, elle est trop sage, c'est tout juste si on va l'entendre dans ce reportage. Aurore, c'est la fille de Thomas. Meta et Thomas se sont rencontrés il y a 4 ans, ils se sont installés ensemble et ils se sont dès le départ autorisés à avoir d'autres histoires. Meta a ensuite rencontré Aurélien et c'est assez vite devenu une histoire sérieuse sur la longueur. Ils ne vivent pas tous les trois ensemble, mais c'est tout comme dans l'appartement qu'ils viennent d'acheter, où ils sont en train de s'installer. Meta et Thomas ont chacun leur chambre, ainsi Aurélien peut passer plusieurs nuits par semaine avec Meta. J'ai donc rencontré cette femme de 32 ans avec sa belle voix grave et ses deux amoureux.
La première fois que ma famille les a vus tous les deux ensemble, c'était à Noël 2009, je crois, où ils sont venus tous les deux avec moi au repas familial de Noël. Ça a fait un peu drôle, notamment à ma petite sœur qui comprenait pas très bien le concept. Et puis voilà, maintenant ils sont tous bien habitués et donc ma sœur a désormais deux beaux-frères et je crois qu'elle en est plutôt ravie. Ma mère a deux gendres et elle en est absolument enchantée aussi. Et donc je les présente comme mes amoureux et je les présente comme respectivement le papa, ce qui concerne Thomas, et le parrain d'Aurore pour Aurélien. Ce qui fait que Aurore pourra aussi les présenter avec le lien direct qu'ils ont avec elle, sans forcément avoir besoin de spécifier leur statut sentimental avec sa maman.
Comment est-ce que vous avez présenté ce bébé à votre famille? Alors c'est votre filleule?
C'est ma filleule, c'est la fille de mon amoureuse. Y a un lien qui se crée aussi, il la regarde aussi avec beaucoup d'affection.
La question que tout le monde doit vous poser évidemment, c'est le rapport entre vous deux, entre Thomas et vous. Il n'y a aucune espèce de jalousie?
On n'est jamais à l'abri de la jalousie, mais on a un rapport amical. On a le bien-être de Meta à cœur, on a le fonctionnement de la famille, le bien-être d'Aurore.
Alors le papa, quand vous avez eu envie de faire un enfant, comment est-ce que vous avez réfléchi à tout ça? Est-ce que vous vous êtes dit que ce serait compliqué?
Oui, bien sûr que ça va être compliqué, parce qu'on est un peu en terrain inconnu. Moi, personnellement, dans l'état actuel des choses, je suis un polyamoureux avec une seule amoureuse. C'est-à-dire, je ne suis amoureux que de Meta. Après, j'ai d'autres relations, des amantes que je vois assez régulièrement, mais pas d'autres relations que je qualifierais d'amoureuses. Maintenant, qui sait ce que demain va me réserver?
Mais là, regardez comme c'est mignon, ils sont en train de se refiler le bébé. On n'a rien inventé, hein. Aimer plusieurs personnes en même temps, l'homo sapiens sait faire ça depuis très très longtemps. nous, enfin voilà, la seule chose qu'on a ajoutée à la possibilité d'aimer plusieurs personnes, c'est de se le dire. C'est de même de le poser en préalable.
Socialement, en France, en 2011, est-ce que c'est facile d'avoir ce mode de vie ?
Oh, probablement pas pour tout le monde. Je crois qu'on a tous les trois la chance de vivre déjà dans un milieu urbain, donc dans un relatif anonymat. On a une copine du troisième qui est venue se faire expliquer dans les grandes largeurs le fonctionnement. Comme ça, elle peut expliquer à ses copines, dont les maris essayent de prendre le prétexte du polyamour pour aller vivre leur démon de midi tranquille, et qui disent à leur femme, bon chéri, faut qu'on fasse le polyamour. Ça ne marche pas. Alors, mesdames et messieurs, ça ne marche pas comme ça. Nous, notre contrat de base est polyamoureux. Ça veut dire que notre relation de base est non exclusive. Quand on a été marié 30 ans et qu'on décide d'aller se taper sa secrétaire, ça s'appelle de l'adultère.
Voilà, la définition est importante. Alors, ce n'est pas exactement un ménage à trois, même s'il passe du temps tous les trois. En fait, Meta a deux vies de couple, il n'y a pas de relation intime à trois. C'est une relation en V, comme ils le disent. Meta est au centre des trois. Alors, Aurélien, le parrain, il a de son côté une autre amoureuse, une relation tout aussi sérieuse. C'est un peu compliqué, Guillaume, mais si vous voulez des détails, Meta et ses deux amoureux font partie des témoins qui se racontent sur le site internet polyamour.info.
Merci beaucoup, Dorothée Barba. Sophie Cadalen, la psychanalyste, lorsqu'elle entend une histoire de ce type, alors on appelle ça du polyamour, avant on appelait ça de la polyandrie, quel regard portez-vous sur ce type d'expérience ?
Ben, à chaque fois, j'écoute des individus, je dirais, qui apparemment sont bien dans un, je dirais, un lieu de vie qui est le leur, qu'ils ont aménagé. Maintenant, je tique un peu dès qu'on parle de fonctionnement, dès qu'on théorise un peu, dès qu'on cadre quelque part les lois, entre guillemets, du polyamour. Là, je freine un peu. Parce
est-ce qu'ils théorisent le polyamour ou est-ce qu'ils théorisent tout simplement ce qui, à leurs yeux, les rend heureux ?
Alors là, dans leur cas particulier, je ne pense pas qu'ils soient dans la théorie, justement, ils n'ont pas l'air de vanter les mérites et les avantages du polyamour. Non, ils restent justement sur leur position à eux personnelle. Mais très souvent, on a une espèce de dérive comme ça. On nous explique que c'est le bon système. Jacques Attali, quelque part, peut-être, est un petit peu, à mon sens, dans cette tendance-là, à dire maintenant, on tend vers la liberté. Sauf que ce que nous, on constate en psychanalyse, c'est que plus il y a de liberté, plus on veut la normer par des systèmes. Et le polyamour peut devenir un des systèmes. On est très libre, donc voilà comment il faut être libre.
Mais pourtant, on pensait que l'un des messages de la psychanalyse consistait à dire qu'il n'y avait pas de vie sexuelle normale.
Ah ben tout à fait, c'est pour ça que je vous dis, moi ce qui en moi se dresse contre ce que j'entends, c'est à partir du moment où c'est systématisé. Et c'est pour ça que je vous dis, la liberté, on tend tous vers elle, et en même temps elle nous fait très peur, elle nous met en face de nos choix personnels, et en même temps, quelque part, elle génère les normes que l'on va se créer, se réinventer, déplacer, pour qu'on nous dise comment il faut faire. C'est très difficile d'écouter ce que je veux faire.
Justement, l'autre intérêt du reportage de Dorothée Barbin était de nous montrer une femme alors que la pensée commune a l'impression ou dit que les hommes sont beaucoup plus facilement polygames que les femmes polyandres.
Non. Et là aussi, je pense qu'il y a plein de choses à casser. Alors, c'est peut-être bien l'intérêt de ce système, d'ailleurs, c'est de montrer que les femmes adhèrent aussi et qu'elles y trouvent aussi leur compte dans les pluripartenaires. Mais bon, ça fait encore partie, je pense, d'un des gros morceaux à faire tomber, que les hommes sont intéressés par le sexe et les femmes, pas tant que ça.
Nous avons un homme au standard, Patrice. Bonjour, Patrice.
Oui, bonjour.
Et vous avez un témoignage à nous délivrer.
Pardon ?
Non, je disais que vous aviez un témoignage à nous donner, Patrice.
Oui, tout à fait. Je voulais saluer Guilin, puisqu'on s'est croisés il n'y a pas longtemps sur une émission. Voilà. Le témoignage, c'est-à-dire que je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur le polyamour. Je voulais juste dire qu'effectivement, la manière de le vivre quand on a 50 ans et qu'on est en province est forcément pas tout à fait la même que quand on est à Paris et qu'on a 30 ans. Je veux dire par là que moi, s'il y a 30 ans, j'avais connu ce mot, bénéficier de toutes les émissions qu'on a actuellement, j'aurais sans doute pu le vivre autrement, plus facilement. Ça, c'était une donnée assez importante. Je rejoins un peu ce qu'a dit la psychanalyste à l'instant, comme quoi il fallait peut-être pas tomber à nouveau dans du normatif très poussé.
Oui.
Il y a des choses. C'est-à-dire, effectivement, cette sensation de pouvoir aimer plusieurs personnes en même temps, l'idée que le fait qu'on tombe amoureux d'une personne ne signifie pas que la personne qu'on aime actuellement, c'est qu'on l'aime moins.
Et effectivement, alors c'est ça ce qui pose problème dans le polyamour. Merci beaucoup Patrice pour votre témoignage. Sophie Cadalen, est-ce qu'on peut dire, voilà, on peut aimer uniquement une personne, on n'a qu'une histoire d'amour dans sa vie, ou bien on peut aimer au contraire plusieurs personnes car on a plusieurs enfants parfois et on les aime tous de la même façon?
Mais ce que je vous dirais et qui est absolument embêtant, c'est que tout est possible. C'est qu'on peut aimer simultanément plusieurs personnes, on peut n'aimer qu'une personne, on peut aussi ne jamais aimer de toute sa vie, parce que c'est quelque part un petit peu l'injonction aussi aujourd'hui, on doit aimer. Non, bah quelquefois, voilà, on ne chavire pas dans la relation amoureuse. Maintenant, je dirais que, là aussi, personne ne sera étonné par ça, c'est compliqué la relation à l'autre. C'est compliqué l'amour. En même temps, ça nous passionne, ça nous intéresse. Donc, on navigue entre voilà, des envies, des libertés possibles, des choix différents, envie d'expérimenter d'autres choses, et puis en même temps, envie de se ranger dans quelque chose qui nous assurait que comme ça, ça fonctionne bien, et comme ça, on sait faire.
Guylain Aumont, est-ce que finalement le polyamour, dans votre cas, vous avez 29 ans, ça n'est pas seulement une parenthèse, c'est-à-dire ce moment qui est assez bien décrit d'ailleurs par les sociologues qui s'intéressent à la vie amoureuse, où on entre dans sa vie amoureuse et puis on va avoir plusieurs partenaires et puis au bout du compte se fixer et vivre une monogamie triste et finalement banale?
Alors moi je pense pas que la monogamie soit nécessairement triste et banale.
Je le disais
ironiquement. Oui, non, mais tout à fait, c'est-à-dire que peut-être que effectivement dans 10 ans je serai dans l'exclusivité amoureuse, j'en sais rien. Je pense pas parce que je me sens bon, déjà j'ai des histoires qui durent longtemps et puis je me sens vraiment, malgré le fait que c'est douloureux parfois, je me sens bien et ça m'apporte beaucoup de choses.
Justement, une question par internet, Marc de Paris nous demande, est-ce qu'on peut envisager une relation polyamoureuse sur toute sa vie, d'après vous?
Oui, évidemment, il y a des gens qui vivent les relations polyamoureuses depuis plusieurs dizaines d'années, certains qui l'ont vécu toute leur vie.
Et lorsque vous envisagez, si vous l'envisagez, d'avoir un enfant, comment voyez-vous les choses?
Ça ne change pas énormément, c'est-à-dire que c'est un projet commun avec une personne, sûrement on habitera ensemble et puis on a des relations toujours avoir des relations amoureuses en dehors. Simplement, peut-être qu'au début, il n'y aura pas assez de temps et d'énergie pour vraiment être dans d'autres relations amoureuses.
Maya Mazorette, ça vous agace tout ça?
Oui, ça m'agace terriblement. Non, c'est cette histoire d'aimer plusieurs personnes. Il y a quand même des recherches scientifiques qui ont été faites pour dire qu'en fait, on ne peut pas aimer plusieurs personnes. Il y a des études qui ont été faites.
Je crois que vous allez énerver Sophie Cadalen si vous dites ça.
Je vais énerver tout le monde. Oui. Je serai plus énervée, donc ça ira. Non, qui montre en fait que quand on est amoureux, on devient aveugle aux autres personnes autour de nous. Il y a quand même plusieurs études maintenant qui ont montré ça. Et donc, comment vous réagissez à ça?
Mais est-ce que c'est ça, c'est pas l'amour fusionnel? C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec vous si on parle d'amour fusionnel. À partir du moment où on a d'autres sortes d'amour, y a les études scientifiques en question,
alors,
elles disent plus rien.
Mais alors, attendez, si Maya, si je veux me faire l'avocat du polyamour, je dirais que dans votre blog, il vous arrive de défendre des pratiques amoureuses qui ne sont pas des pratiques traditionnelles, comme par exemple l'échangisme, l'amour à plusieurs, et ce genre de choses vous paraît envisageable, tandis que le polyamour, lui, ne vous paraît pas possible.
Parce que j'ai aussi un problème avec le polyamour par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à quelque chose qui devient une espèce de nouvelle norme. C'est-à-dire que des fois, quand on entend les polyamoureux parler, on a l'impression d'être un espèce de dinosaure qui vit sur une espèce d'autre planète,
dans des siècles anciens. C'est peut-être ce que vous êtes,
finalement. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des amours pluriels en disant que les gens qui sont dans l'exclusivité amoureuse sont forcément des crétins. Et ça, je ne supporte pas non plus.
Sophie Cadalen.
Mais je pense qu'il y a une notion qui peut-être rassembler tout le monde, c'est la notion du temps. C'est-à-dire que oui, on peut être dans un temps fusionnel, c'est que l'autre et on voit que lui et ça ne peut être que lui. Et en même temps, vous parliez tout à l'heure, Guylain, du fait peut-être le vivre tout le temps les polyamants, mais je pense que voilà, le temps fait qu'on ne sait pas que là, aujourd'hui, on peut vivre une situation, on a rencontré les personnes capables et quelque part complices pour ce choix-là de vie. Et puis le temps d'après, on n'aura peut-être plus envie de ça, on n'aura plus les personnes et même personne en face de soi. Donc le temps va changer aussi notre rapport à l'autre et aux relations.
Sur le plan psychanalytique, Sophie Cadalen, bien souvent l'adultère est interprété comme une manière de revivre l'Œdipe, puisque là aussi, la personne se retrouve avec deux autres protagonistes, comme jadis il y avait papa et maman. Alors est-ce que le polyamour, ça change justement ce rapport qu'on a à l'Œdipe?
Alors, cette interprétation, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le.
C'est l'interprétation, par exemple, de Jacques André.
Oui, le dit, moi, je ne le rejoins pas tellement là-dessus. Sur le, non, je dirais que plutôt ce qui quelque part, est attirant et commode dans l'adultère, c'est que ça permet, quelque part, de dissocier. Il y a le lieu légitime, ce qu'on appelait aussi l'adultère bourgeois, mais qui, à mon sens, n'a pas tellement évolué forcément. Le lieu, voilà, de la famille, de la construction, du couple, encore une fois, officiel. Et puis, il y a le lieu de la gaudriole, le lieu de l'ailleurs, du piquant, du sexe, de l'excitant. Et l'humain a tellement de mal à faire concilier, justement, l'amour, les grands sentiments, l'investissement, le projet et le sexe, avec ce que ça a d'immédiateté, que voilà, il y a un adultère qui permet de finalement d'ordonner nos pulsions. On veut du stable, du pour toujours et à jamais, et on veut du là, maintenant, tout de suite et de manière effrénée. Non, à mon sens, c'est plutôt de cela dont il est question. Alors, polyamour,
mais cette dichotomie, elle vous paraît obligatoire s'il y a le fait
non,
de
pas du tout, pas du tout. Je pense qu'on peut aimer et avoir du sexe avec celui qu'on aime ou ceux que l'on aime, mais le polyamour.
Non, mais le piquant. Parce que le sexe, oui, on est au courant qu'on peut avoir une sexualité avec une personne qu'on aime. Mais le fait de dire, voilà, bah, y a forcément un lieu qui est le lieu où on a une sexualité piquante, disiez-vous. Et effectivement, c'est ce qu'a été au 19e siècle, le bordel, ce genre d'institution, et qui aujourd'hui n'existe plus de manière massive. Est-ce que finalement, l'expérience de Guilain Aumont avec le polyamour, ça n'est pas le fait de dire, bah voilà, cette obligation de vivre le piquant ailleurs, elle est toujours actuelle.
Elle est en nous, cette obligation de le vivre ailleurs. Mais en même temps, cet ailleurs, on peut le ramener dans son couple. Et là, je rejoindrai Maya, qui, dans cet idéal de la fusion, non, justement, en sortant de la fusion, on va construire autre chose avec l'autre et peut-être apprendre et travailler, sans que ce soit laborieux, à réintroduire le piquant. Polyamour, quand il est vanté comme un système, à mon sens, c'est une autre façon d'ordonner et le piquant et l'amour, justement.
Nous avons une auditrice au téléphone. Nous avons Catherine. Bonjour, Catherine.
Bonjour.
Vous avez un témoignage à nous délivrer.
Ben écoutez, oui, là, j'ai pas entendu les trois dernières minutes parce que j'étais à l'antenne avec vos techniciens.
Mais non, mais vous dites que finalement, vous avez connu dans votre entourage proche une expérience de polyamour.
Oui, moi, c'est mon père qui a vécu avec deux femmes depuis que j'avais l'âge de 5 ans, au vu et au su de tout le monde, hein. C'est-à-dire dans la première femme, si j'ose dire, c'était ma mère. La seconde n'a pas vécu avec lui et nous, donc, pendant un certain temps.
Et vous, comment viviez-vous cela, Catherine ?
Elle était vacances avec nous, etc.
Comment viviez-vous cela, Catherine ?
Alors, moi et mon frère aîné, du coup, on a été élevés par un oncle et une tante sans trop d'explications. Donc, quand je voyais débarquer sur le quai de la gare que je venais pour les vacances, que je voyais mon père avec cette deuxième personne, ça me posait quand même une petite interrogation. Quant à mes frères, je trouve que ça les a quand même beaucoup secoués. La différence avec votre interlocuteur, c'est qu'il n'y avait pas d'explication là-dessus.
D'accord, c'était quelque chose qui demeurait dans le non-dit.
Je ne veux pas monopoliser l'antenne, mais ce que je voulais dire, c'est que dans le discours de ce monsieur, je trouve qu'il ne parle que de lui et de son point de vue, et que finalement, malgré ses doutes, il dit « oui, c'est pas facile pour les autres ». Il y a quand même une forme de bonne conscience. Moi, je suis assez d'accord avec votre psychologue. C'est quelque chose qui me semble un petit peu acrobatique quand même. Et de plus, l'entourage est quand même très...
Ça joue un rôle évidemment important, on s'en doute.
Dans la vie, hein, il y a une famille autour, comment c'est vécu. Nous, en tant qu'enfants, on était complètement éclatés entre les autres membres de la famille qui nous disaient que c'était pas bien.
Oui, alors on comprend bien que là, c'était effectivement quelque chose qui vous faisait souffrir. Merci beaucoup, Catherine, pour ce témoignage qui effectivement remet les choses en perspective. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci Sophie Cadalen. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Inventer son couple ». Merci Guilain Aumont. Je rappelle votre site internet amour.pl. Jacques Attali, amour au pluriel. Une manière donc d'entrer dans l'histoire de l'amour. Et Black Part Love, c'est Lassio.
Service public, Guillaume Erner.
Yo, your face and I try to make your face and I try to make you warm, cause you always got what it takes to act like you're some kind of hard ass clown, but I I know better than that. I know you're way too long. Know you're way too long. See, I know about your background. It wasn't easy, I know for sure. But that's no reason to brag. It's in the past, so don't let it go. And just be who you are now. And who you're supposed to be.
h 44 sur France Inter, service public, seconde partie de l'émission.
La séquence du consommateur.
Et comme dans les primaires socialistes ou pas, il n'y a qu'une personne qui est choisie à la fin et c'est à vous que cet honneur échoit, Maya Mazorette.
Yeah.
Vous êtes heureuse. Vous voulez nous parler du quick sex, peut-être parce que vous avez oublié que le français est la langue de l'amour, Maya.
Non, Guillaume, on peut aussi parler de relations sexuelles ultra rapides pour les flemmards qui n'aiment pas les préliminaires, mais c'est plus long et tellement moins tendance. Le quick sex, donc, on lui consacre des guides, des sites internet, des articles, on y associe des orgasmes arrachés dans des ascenseurs et des lieux de haute classe comme des toilettes publiques. Et moi, cette tendance m'exaspère complètement.
Oui, vous êtes effectivement extrêmement exaspérée, Maya.
Oui, comme tous les jeudis, Guillaume, mon problème, c'est que le quick sex est anti-féministe.
Eh ben voilà, il manquait plus que ça.
Et oui, à de loin, le concept paraît avoir tous les avantages. Pas compliqué, amusant, coquin. Le temps d'une publicité pendant un épisode de Desperate Housewives et c'est terminé. Aucun risque de faire brûler le gratin. Sauf que... quand on parle de quick sex, c'est toujours en imaginant une pénétration vaginale. On ne parle jamais de quick cunnilingus ou de quick caresse, parce qu'on sait très bien que pour faire monter l'excitation féminine, et généralement pour donner un orgasme, il faut du temps. On peut tout économiser. Les sentiments, le confort ou même la douche, mais pas le temps. Donc le quick sex, il sert essentiellement à faire jouir les hommes. Alors, une fois de temps en temps, pour changer, pour récompenser votre mal personnel, ok. Mais faire du quick sex un mode de vie, c'est le genre d'idée géniale sur le papier et profondément frustrante en vrai.
Mais il y a quand même, Maya, des femmes qui grimpent rapidement au rideau.
Mais dites-moi, Guillaume, vous ne seriez pas, par hasard, en train de vous vanter devant des centaines de millions de milliards d'auditeurs ?
Pas du tout.
Je te demande juste.
Nous n'avons pas autant d'auditeurs.
Mais si. Et en plus, vous avez raison. Certaines femmes orgasment en 2 minutes, mais en se masturbant, avec leur clitoris, le clitoris qui, justement, est le grand oublié du quick sex. Et vaginalement, alors là, c'est encore plus compliqué, parce que les femmes ont physiologiquement besoin de temps pour être prêtes. Je m'explique. Plus les scientifiques étudient la morphologie féminine, plus ils se rendent compte que le plaisir féminin prend de la place. Concrètement, le clitoris est la partie émergée de 2 branches qui viennent enserrer le vagin. Et pour être excité, c'est tout un dispositif qui doit se remplir de sang. Exactement comme un pénis, mais plus volumineux et logiquement plus chronophage. Alors si les femmes ne réagissent pas au quart de tour, c'est pas parce qu'elles n'ont pas envie de forniquer avec vous à l'arrière de la Volvo.
Pourquoi la Volvo ?
Je sais pas, j'adore les Volvo. c'est parce qu'elles n'ont pas exactement le même rythme que les hommes. Alors, comme on est sympa, on a quand même tendance à dire d'accord au quick sex. Mais du coup, puisque les chances d'orgasmer de cette manière sont très limitées, bah, on simule.
Comment ça? Mais le quick sex, au contraire, Maya, c'est l'impréparation, la spontanéité.
Mais oui, c'est la spontanéité du gamin de 5 ans qui se jette sur ses cadeaux de Noël. Au lieu de savourer le moment présent pendant que ses parents simulent l'excitation, alors qu'ils veulent juste retourner au pied. Alors attention, je nie pas l'existence des plaisirs coupables. Pas du tout, d'ailleurs, je compte aller me faire un burger bien gras en sortant du studio, mais bon sang! Si vous pouvez passer 5 minutes sur une séance de quick sex, vous pouvez bien trouver 15 minutes dans votre journée et être sûr que votre partenaire ne se sacrifie pas. On n'est pas des bêtes à se jeter sur l'autre comme si la fin du monde était pendant 3 secondes. Pensez à votre partenaire comme à une bonne bavette, avec des échalotes qui ont eu le temps de revenir tout doucement et des frites, plein de frites. Ce serait dommage de ne pas prendre son temps, non?
Vous savez, Maya, que maintenant, les frites à la cantine, c'est plus qu'une fois par semaine. Donc, vous reviendrez la semaine prochaine. Merci beaucoup, Maya Mazorette.
France Inter, service public.
Amazon, le site internet Amazon, lance cette semaine en France sa liseuse, une tablette informatique permettant de lire des livres numériques. Bonjour, Xavier Garambois.
Bonjour.
Vous êtes PDG d'Amazon France. Alors, figurez-vous qu'on s'est rendu compte que le Kindle, il est proposé à 99€ en France, alors qu'aux États-Unis, il est vendu 79$. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Amazon prendrait les Français pour des vaches à lait, Xavier ?
Je pense pas. Je pense que c'est un problème de calcul, en fait, puisque la version à 79$ du Kindle aux États-Unis n'est pas la même que celui que nous proposons à 99€.
Ah si, je vous assure que c'est la même.
Non, ce n'est pas la même puisqu'elle est, elle est financée par la publicité en fait. Il y a un certain nombre d'écrans dans le Kindle à 79$ aux États-Unis qui sont financés par des écrans publicitaires, ce que nous n'avons pas pour le moment en France. Et par ailleurs, quand vous prenez en compte évidemment l'expédition d'une Kindle depuis les États-Unis en payant la TVA sur le territoire français, en payant les frais de port, vous êtes à des prix qui sont vraiment proches des 99€ que nous proposons. Donc ce sont des offres en termes de valeur qui ne sont pas tout à fait exactes. Et en tout état de cause, nous pensons que le Kindle à 99€ en France est une formidable proposition de valeur pour nos lecteurs.
Alors, le Kindle va donc permettre de lire des livres numériques, ça on l'a compris, mais alors uniquement les livres numériques que proposera Amazon, c'est ça, Xavier Garambois ?
Vous pouvez effectivement télécharger sur Kindle des livres numériques proposés par la boutique Amazon, la boutique Kindle sur Amazon.fr exclusivement, mais par contre, vous pouvez lire ces ouvrages numériques sous toute une série de plateformes et d'outils et de liseuses ou de lecteurs, des iPhones, des iPads, des Macs, des tablettes Android, grâce à un jeu d'applications gratuites que vous pouvez télécharger.
Par contre, je ne peux lire que ce que vous me proposerez, vous Amazon.
Absolument. Sur Kindle, vous ne pouvez acheter que des ouvrages que vous trouvez sur Amazon.fr.
Mais alors donc, la question qu'on peut se poser lorsqu'on aime les livres, c'est de savoir ce que deviendront tous ces livres qu'on a achetés chez Amazon dans son Kindle lorsque, si d'aventure, le Kindle n'existe plus, Amazon n'existe plus, mais la Terre existe encore. Qu'est-ce qui se passera dans ces conditions, Xavier Garambois ?
Écoutez, moi, je ne veux pas me projeter sur des projections justement aussi pessimistes.
Non, mais c'est important, une bibliothèque.
Bien entendu,
lorsqu'on aime les livres et qu'on les achète, on veut les acheter sur la durée, évidemment.
Absolument. Et c'est pour ça que nous sauvegardons l'ensemble des fichiers numériques sur nos serveurs. Hein, et c'est extrêmement sécurisé. C'est la technologie de cloud. Alors peut-être qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais nos serveurs gardent une trace de l'ensemble de ces fichiers. Donc si vous perdez votre Kindle demain, s'il casse, si vous décidez de changer d'appareil et uniquement de lire sur des applications, vous pouvez retélécharger à n'importe quel moment le contenu que vous avez acquis avec nous.
Est-ce qu'on ne peut pas redouter...
Si le monde disparaît, on aura un certain nombre de problèmes.
Alors avant que le monde ne disparaisse, est-ce qu'on ne peut pas redouter que les libraires disparaissent avec cette invention, Xavier Garambois ?
Écoutez, je pense que la lecture numérique, si vous voulez, d'abord, est assez balbutiement en France. Il est clair que ce qu'on voit outre-Manche aux États-Unis et puis un petit peu en Angleterre déjà, c'est qu'un certain nombre de lecteurs et de consommateurs deviennent adeptes de la lecture numérique. Et je pense que ça fera partie de notre façon de lire dans les années et les décennies qui viennent. Bien entendu, certaines personnes ne passeront jamais à la lecture numérique. Certaines personnes continueront à favoriser le papier. Mm-hmm. Certaines personnes mettront du temps à s'y mettre. Certaines l'adopteront tout de suite. Je pense qu'au final, vous savez, c'est aux lecteurs et aux consommateurs de décider.
Dernière question rapide, Xavier Garambois. Les livres numériques sont encore proposés à peu près au même prix que les livres papier en France. Ça va changer ?
Oh non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je pense que
il y a 20% de différence.
Oui, on a 20% de différence.
C'est pas beaucoup.
C'est quand même pas rien. Et quand vous mettez la proposition de valeur de 7 écarts plus un Kindle avec 99€ uniquement, ça fait quelque chose de très attractif.
Merci beaucoup, Xavier Garambois. Désolé, mais le temps presse. En tout cas, on vous a entendu sur le Kindle proposé cette semaine par Amazon. Comment être à la fois en Grande-Bretagne et au Japon? Vous allez le savoir immédiatement avec un temps de Pochon, où Pochon a deux amours, la Grande-Bretagne et le Japon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour, ça me fait plaisir de faire parler le directeur de France Culture. Qu'est-ce que vous faites là?
Je suis membre de ce jury et très heureux parce que... Pour une fois, on a choisi un artiste rayonnant et ça correspond parfaitement à la définition de notre prix.
Pourquoi vous n'avez pas choisi France Inter? C'est quand même pour le rayonnement de la culture.
Mais il y a le groupe Radio France, plutôt, vous voulez dire. Et France oui. Culture avec. Bill Christie, non, Bill Christie, c'est formidable parce que c'est le bel exemple. C'est l'exemple de l'étranger qui vient adopter la France. Et en plus, c'est le pays qui nous complexe, c'est les États-Unis. Donc c'est l'Américain qui vient dire qu'en France, c'est plutôt mieux qu'ailleurs et mieux qu'aux États-Unis. Alors déjà, c'est un bon début. Et qui après, en effet boomerang, fait le tour du monde en disant vive la France. Et c'est génial, ça. Voilà.
Ben merci.
Merci à vous. Et vive France Inter.
Bon, venant du directeur de France Culture, ça vaut cher, ça. J'en reviens pas. Olivier Poivre d'Arbor qui dit vive France Inter. Bon, bonjour à tous et bienvenue au cocktail organisé pour la remise du prix 2011 du rayonnement français attribué cette année à William Christie. Alors, outre Olivier Poivre d'Arbor, dans le jury, il y avait Patrick Poivre d'Arbor, Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, Jean-Pierre Launois, Daniel Rondeau, Dominique Volton, Marie-Christine Saragosse. Enfin, que des grandes pointures culturelles, quoi, autant le dire.
Prenez les prix d'ambiance.
Exactement. C'est bon. Extraordinaire. Si en tant que représentant des Français du Japon, vous avez quelques mots à dire, Monsieur Thierry Consigny, c'est facile, c'est marqué sur votre badge.
Écoutez, simplement dire que le rayonnement culturel de la France au Japon est immense. Il y a une très grande attente des Japonais. Souvent, je regrette qu'on soit un petit peu frileux sur des pays comme cela pour vraiment répondre à ces attentes. On a de belles actions culturelles, mais à mon avis, on n'a pas une politique culturelle qui nous permette vraiment de conserver la place qu'on a eu pour des années. On a des Japonais qui parlent français extraordinaire, mieux que le mien. Et on a des Japonais qui regardaient de vieux films français, les larmes dans les yeux. Des Japonais qui prenaient le Transsibérien Express pour aller chercher des films en noir et blanc. Puis aujourd'hui, la culture étrangère au Japon, elle est surtout américaine. On regrette un petit peu que le Japon soit un peu négligé. Et de plus en plus, puisque maintenant, on regarde surtout la Chine. Mais il y a encore de très très belles choses à faire au Japon pour la culture.
Et qu'est-ce qui vous a incité à partir au Japon, vous ?
Oh, c'était un peu par hasard. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui arrivent par les mangas ou par d'autres choses. Non, moi, c'était l'attraction d'un pays dont je savais que ça serait peut-être, il y a 25 ans, une grande économie mondiale. Donc, apprendre la langue, y travailler, pour moi, c'était pas du tout incompatible avec des objectifs de carrière et de vie.
Qu'est-ce que vous faites là-bas ?
Je m'occupe d'une entreprise que je dirige dans le domaine de tout ce qui est économie de l'intelligence et de la connaissance. Donc ça veut dire logiciels, systèmes d'éducation, d'information pour des entreprises japonaises.
On parle beaucoup moins du Japon, on en a beaucoup parlé après Fukushima.
Écoutez, il y a l'économie japonaise qui tourne très fort. Je crois très fort dans la capacité du Japon à rebondir, il l'a toujours montré. Non, simplement la classe politique au Japon... est tout à fait en dehors du coup. Et c'est ce manque d'anticipation qui fait que la société civile a vraiment beaucoup de mal à avoir confiance en la classe politique, que la classe politique ne prend pas les bonnes décisions. L'économie marche bien, mais je crois que le moral de Madame Dugenoux au Japon n'est pas très fort en ce moment.
Et vous avez eu peur Vous étiez là-bas pendant Fukushima?
Ah oui, il y a des jours où j'étais vraiment très inquiet. Oui. Des jours où on avait des informations contradictoires, mais il faut savoir aujourd'hui, c'est prouvé que notre sécurité a reposé pendant 10 jours sur la direction des vents. À savoir que si on s'était pris des doses et des doses de millisieverts de panache radioactif qui se sont dirigés fort heureusement vers l'Est et vers le Pacifique, mais si on s'était pris ça sur Tokyo, ça aurait été catastrophique. Et les capsules iodées qu'on nous a données on les aurait bu là, sans aucun problème.
Alors que vous n'en avez pas pris du tout?
Non, on les a toujours quelque part, mais
c'est pas périmé.
On a eu beaucoup de chance. Non, c'est périmé.
C'est périmé. Et alors, vous avez vu les Français partir, et puis après, vous avez vu les Français revenir, quand certains se sont dit, c'est bon, on peut revenir maintenant, ça craint plus rien.
On a une communauté quand même qui est encore un petit peu en train de se reconstruire. Sur 10 000 Français, on estime qu'entre 15 et 20% ne sont pas revenus. Ça se retrouve aussi dans les effectifs de l'école française, où là, c'est pareil. On avait 1035 élèves l'année dernière. Aujourd'hui, on doit en avoir à peu près 820, 830. Donc, je pense que les familles expatriées n'ont voulu prendre aucun risque. Je pense que d'ici un an ou à deux ans, on sera revenu à la normale. On sera revenu. Mais ça va être long.
Le prix du rayonnement français, vous connaissiez William Christie?
J'ai le plaisir ce soir de rencontrer le récipiendaire. Et c'est vrai que la musique française à l'étranger, dont il est l'un des ambassadeurs, c'est l'une des images de marque de notre culture. Mais je ne connaissais pas du tout la personne auparavant, je dois vous l'avouer.
Très, très bien de votre part. Eh bien, je vous remercie alors et bon retour.
Minasan, kyou wa Antan do Pochon to iu bangumi wa owarimashita. Shikashi, raishuu no yotsuyobi mada tanoshimi ni shiteorimasu node, minasan yoroshiku onegai shimasu.
Oh, c'est long, hein?
Oui, c'est comme dans Lost in Translation, on en rajoute un petit peu.
Et j'ajouterais qu'un temps de pochon a été réalisé par Véronique Barnet. Et c'est la bande de service public qui a élaboré l'émission du jour. Je veux parler d'Agathe Gilbert, d'Irène Menahem, d'Élodie Piel, avec Stéphanie Texier. À la réalisation, la programmation musicale était signée Jean-Michel Montu. À la technique aujourd'hui, il y avait Gilles Gaillard et Yann Bouillot. Demain, nous consacrerons notre émission au service public de télévision, donc à France Télévisions. Et dans quelques instants, juste après le Flash, vous retrouverez Isabelle Giordano et ses affranchis.